Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi. Linda Christelle Ballier.
12h en temps universel et ici à Abidjan, vous faites bien de vous informer sur Radio de la Paix. À la une de cette édition, mon candidat c'est la paix, c'est la campagne de sensibilisation lancée hier dans le Gbeke par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale Kwadio Konan-Bertin pour contribuer à des municipales et régionales apaisées et sans violence. Au Burkina Faso voisin, un ex-ministre a été condamné à 7 ans de prison ferme pour détournement de deniers publics. Nous y reviendrons dans cette édition. Et puis l'actualité internationale sera suivie du dossier d'actualité de Stéphane Adams sur l'accès des femmes à la propriété foncière dans le Tonkwi. Dernière articulation de cette édition, c'est l'invité de la rédaction. Et pour aujourd'hui, il s'agit du docteur Guillaume Nguessan. Il est maître de conférence en géographie à l'université Jean-Laurignon Gwigede de Daloa. Il se prononcera sur la récente décision de suspendre les ventes à terme du cacao ivoirien pour la saison 2023-2024. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à tous. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a procédé hier jeudi 17 août à Boaké au lancement de la campagne nationale de sensibilisation dénommée « Mon candidat, c'est la paix ». Cette activité, selon Bertin Kwadio Konan, a pour objectif de contribuer à des élections municipales et régionales apaisées et sans violence. Le reportage est signé Joseph Assalé depuis le Gbeke.
Pourquoi le choix de Boaké pour abriter le lancement de la campagne de sensibilisation pour les élections municipales et régionales apaisées? Bertin Kwadio Konan, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale.
Tout est parti d'ici. Et Boaké a d'abord connu la rébellion après la crise post-électorale et la guerre. Le sang a malheureusement trop coulé ici à Boaké. C'est pourquoi j'ai choisi de lancer cette campagne de sensibilisation autour des élections qui arrive, eh bien, à Boaké.
Puis il a recommandé le bon ton aux uns et aux autres durant tout le processus électoral.
Il faut faire attention. L'amour pour le pays ne se limite pas dans le verbe. Il faut que nos comportements soient en harmonie avec ce que nous disons, que nous faisons. Ces élections qui arrivent, comme celles qui vont venir après, vrai candidat de chaque Ivoirien, ça doit être la paix.
Les différentes composantes de la société de Boaké ont exprimé leur engagement à cultiver la paix avant, pendant et après le scrutin du 2 septembre prochain.
Cette région qui a vu le lion, voilà, donc nous, on ne peut plus revivre.
Nous savons ce que c'est que la guerre et nous sommes engagés pour que Boaké ne revive plus.
Je peux vous rassurer, les jeunes de Boaké ont compris leur importance dans la recherche et la consolidation de la paix.
Après Boaké, la délégation du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale s'est rendue à Béomi en vue d'échanger avec les populations. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Et à quelques jours des municipales et régionales de septembre prochain, l'instance de régulation de la presse imprimée et numérique invite les journalistes et faiseurs de l'actualité, notamment les hommes politiques, les guides religieux et la société civile, à mettre fin aux élections avec la violence en Côte d'Ivoire. À cet effet, l'ANP, l'Autorité nationale de la presse, avec le soutien de l'UNESCO, a organisé un atelier de concertation entre ces deux parties. C'était hier à Abidjan. Francis Cassis y a assisté. Voici son compte-rendu.
Ouvrant la série des allocutions, le président de l'Autorité nationale de la presse a souligné que malgré l'antagonisme des joutes électorales, la Côte d'Ivoire peut être abonnée aux élections dans la paix. Samba Kone.
Que les élections se révèlent comme des moments de forte crispation, des tensions exacerbées, n'est pas spécifique à notre pays. C'est pourquoi l'Autorité nationale de la presse a jugé utile de donner la parole aux différents groupements qui font l'actualité dans nos villes, dans nos cités, hommes politiques, guides religieux, organisations de la société civile. Qu'attendez-vous de la presse pour des élections sans violence?
À son tour, le représentant de l'UNESCO à Abidjan a mis les uns et les autres face à leurs responsabilités. Ouma Diop.
Chers amis journalistes, chers guides religieux, chers membres de partis politiques, cette rencontre est le symbole d'une volonté commune d'écrire une nouvelle page afin de créer un cadre propice à des élections apaisées.
Dans son discours d'ouverture de cet atelier de concertation, le directeur du cabinet du ministre de la Communication s'est félicité de sa tenue. Martial Adou.
L'initiative du présent atelier de concertation est donc à saluer, surtout qu'il se tient à quelques jours des élections locales prévues. Il nous faut éviter de croire et d'agir comme si la démocratie se conjugue avec la violence.
Après son ouverture, l'atelier de concertation organisé par l'ANP a démarré par une conférence inaugurale du professeur en sciences de la communication Hadji Baye sur le thème « Quelle contribution de la presse à des élections sans violence ?»
Et pour ces consultations locales, trois personnes dans le district autonome du Dinguélé vont porter les couleurs du PPACI. Face à ces candidatures favorablement accueillies par les populations, le commissaire chargé de la stratégie électorale s'est prononcé sur ce qu'il qualifie d'esprit émergent lors de la rencontre organisée par le Conseil national des droits de l'homme. On écoute Guy Laurent Béinou à cette occasion.
Nous avons proposé trois candidatures. Une candidature à Odené Commune, une candidature à Kanyasso et une candidature à Madnani. À notre avis, une candidature du PPACI à Odené est la marque que la démocratie est réelle partout en Côte d'Ivoire. Il y a des années passées, l'on a fait croire à beaucoup de jeunes Ivoiriens que la candidature des autres partis politiques n'était pas possible. Nous ne venons pas pour dire que ce n'est pas possible, nous disons que c'est une réalité. Parce que Odené fait partie du territoire ivoirien et les responsables politiques à Odené, étant de la même famille, ils ont compris aujourd'hui que le jeu politique peut être diversifié et très enrichissant. Dans les candidats PPACI sont un nouveau souffle pour Odené et dans toute sa diversité. Pour prévenir les violences, sinon pour avoir des élections non violentes à Odené, nous allons nous pencher sur la responsabilité des candidats de bien faire comprendre le processus électoral à leurs militants, à leurs états-majors et les amener à respecter le processus électoral le jour des élections, pendant et après la déclaration des résultats.
Nous écoutions à l'instant Guy Laurent Béinou, commissaire électoral PPACI du district autonome de Dinguélé. Le Conseil national des droits de l'homme a organisé à Yamoussoukro récemment, avec l'appui technique de l'Institut danois des droits de l'homme et celui financier de l'Union européenne, un forum des droits de l'homme autour du thème « Droits de l'homme et élections ». Cette rencontre a enregistré la participation de nombreux acteurs de la société civile, des éléments des forces de défense et de sécurité, ainsi que des guides religieux et traditionnels. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet dénommé « Appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire » en ligne de Yamoussoukro, Émile Yao.
La prise en compte des questions des droits de l'homme en période électorale, selon Bamba Sendou, secrétaire exécutif de la Commission électorale indépendante CEI, revêt une importance capitale, d'où l'organisation de ce forum des droits de l'homme.
Le présent forum des droits de l'homme reste un cadre excellent d'échange entre les différents acteurs étatiques et non étatiques, afin qu'on ait une meilleure compréhension des questions des droits de l'homme, surtout dans un contexte électoral, et faire en sorte pour que les élections soient pacifiques.
L'atteinte de cet objectif, indique Bamba Sendou, passe par la connaissance des textes et autres règles établies.
Pour un bon respect des droits de l'homme, nous devons connaître les textes internationaux auxquels la Côte d'Ivoire a ratifié, le code électoral, les textes sur la participation des femmes et le mode opératoire. En plus de ces textes, il y a la question du découpage électoral, qui est un problème de droit.
L'Union européenne appuie financièrement le Conseil national des droits de l'homme dans la mise en œuvre du projet Appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Son représentant, Dal Borgo Antonio.
Ces projets que l'Union européenne a décidé d'appuyer est très important pour nous, parce que cela s'inscrit dans un socle de valeurs communes que l'Union européenne partage avec la Côte d'Ivoire. C'est des valeurs de la démocratie, de la tolérance, d'égalité des genres, du respect de la non-violence.
En plus de l'Union européenne, ce projet bénéficie également de l'appui technique de l'Institut danois des droits de l'homme. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Autre sujet dans cette édition, et c'est pour parler de l'immigration irrégulière. À cet effet, l'ONG Barreau, dans le cadre de la campagne dénommée « La Côte d'Ivoire est au Je suis Calais », apporte sa contribution à travers des réflexions qu'elle analyse des causes de ce phénomène et quelles alternatives proposées par la Côte d'Ivoire pour y faire face. Migrants, sociétés civiles, gouvernants ont échangé hier au Centre national de matériel scientifique à Cocody, suivant donc le compte-rendu de Ghislain Koulibaly.
Sidia Soaré, informaticien ivoirien ayant migré plusieurs fois, partage ici sa mésaventure sur le chemin de la Libye.
Ils nous ont agressés, on a marché 4 jours, on est rentré en Libye.
Mais Sidia avait à cœur de se former.
J'ai tenté l'aventure plusieurs fois, mais c'est avec des intentions différentes. Parce que là, j'ai parti pour des formations, aller apprendre, aller me former et revenir.
On va au village, on fait des choses, on parle aux jeunes. Il y a beaucoup de choses.
Sidia retourne au pays avec Judith, son épouse, qu'il rencontre au Maroc. Tous deux sont engagés aujourd'hui dans la sensibilisation.
Depuis mon retour ici, même quand nous partons dans nos villages, on entend des jeunes qui ont envie de partir explorer la migration. J'arrive quand même à convaincre ces enfants-là à d'abord commencer leur Eldorado chez eux.
C'est ce genre de témoignage que l'ONG Barreau met en lumière. Écoutons la présidente Mawa Bakayoko.
C'est à nous de dire aux jeunes là, si vous durez dans l'effort, si vous observez les étapes de la réalisation d'un projet, il va sans dire que vous allez arriver à la victoire.
L'une des solutions, c'est l'éducation, nous fait savoir l'un des panélistes, Siaka Bakayoko, expert en finance et développement.
Dans nos écoles, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux enfants que l'immigration clandestine est un danger.
En cette période électorale, comment la lutte contre l'immigration clandestine est-elle prise en compte dans les programmes de société des candidats ?
Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso voisin, un ex-ministre a été condamné à 7 ans de prison ferme pour détournement de deniers publics. Vincent Dabilgou, ancien ministre des Transports du Burkina Faso, a été condamné hier jeudi à 11 ans de prison, dont 7 fermes pour détournement de deniers publics. Enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, a appris l'AFP de sources judiciaires. Dabilgou était ministre de 2018 à 2022 sous la présidence de Marc-Christian Caboret, renversé par un putsch en janvier 2022. Il devra en outre, notamment Dabilgou, s'acquitter d'une amende de 3,3 milliards de francs CFA. Et 4 autres personnes, dont 2 de ses ex-collaborateurs au ministère, ont également écopé de peines de prison allant de 6 à 11 ans et de lourdes amendes. Et puis le tribunal a également ordonné la confiscation des biens de Vincent Dabilgou à hauteur des sommes détournées au profit du trésor public et prononcé son inéligibilité pour 5 ans. Et nous sommes de retour en Côte d'Ivoire où nous retrouvons dans le Tonkoui notre correspondant Stéphane Adams pour son dossier d'actualité qui porte sur un sujet d'appui à l'accès des femmes à la propriété foncière Guingouiné, Gléguiné, Guapalé, Kouinlilé et Dinéguiné sont les 5 villages du département de Man dans la région du Tonkoui qui sont les bénéficiaires du dit projet financé par l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international.
Ici à l'ouest, nous les femmes, on n'a pas droit à la terre, c'est ce que nos parents nous disent. On ne sait pas pourquoi.
La problématique posée, l'accès des femmes à la terre ou les droits fonciers des femmes dans la région du Tonkoui est un sujet diversement apprécié dans les cellules familiales. L'ensemble de l'équipe projet en a pleine conscience au démarrage du dit projet.
Terra Dion, je suis le chef de projet d'appui à l'accès des femmes à la propriété foncière financée par l'USAID. La question foncière et surtout la question de la femme et la gestion foncière est très sensible. On était conscient au début du projet, il y en avait même des appréhensions comment le projet allait se dérouler, mais avec l'implication de tous les acteurs et surtout une approche qui met l'accent sur le dialogue, les échanges, pour que les solutions viennent même des communautés elles-mêmes et des acteurs eux-mêmes. Grâce à cela, on pense voir petit à petit les lignes en train de bouger.
Quel est donc l'objectif prioritaire du dit projet d'appui à l'accès des femmes à la propriété foncière?
Le projet vise à promouvoir la cohésion sociale, le développement dans des communautés au nord et à l'ouest de Côte d'Ivoire, en focalisant sur l'égalité hommes-femmes et la prise en compte du genre dans la gestion foncière.
L'avis de René Marcel Daï, sous-préfet de Borguiné, dans la mise en œuvre du projet.
Je me réjouis de ce que les efforts soient reconnus et en même temps, je suis consciente qu'il y a encore beaucoup à faire. Donner des terres aux femmes, ce n'est pas dans l'intention de les déposséder de leur autorité. Je voudrais profiter pour féliciter mes populations. Je me rends bien compte que le message passe. C'est d'associer associer les femmes aux prises de décision.
La position et l'appréciation d'une des structures privées ayant son objet social identique ou similaire à celui du projet mis en œuvre dans les 5 villages du département de Man dans la région du Tonkpi.
Je me nomme Do Agnès, coordinatrice de l'ONG ADPF, qui veut dire Action pour le développement et la protection de la famille. Je suis très heureuse de savoir que ces femmes-là viennent de communautés rurales. Auparavant, leur voix n'était pas entendue. Mais avec ce projet, on voit aujourd'hui les honorer et aussi sortir des situations difficiles qu'elles subissent au quotidien. Je remercie l'organisation qui a permis ce forum et encore à l'État de Côte d'Ivoire même qui fait un plus pour que la voix des femmes soit écoutée. Avant, la femme était derrière. Maintenant, la femme est à côté. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne.
Rappelons que le projet est exécuté dans 6 régions sur l'ensemble du territoire national depuis son lancement en 2021. Stéphane Adams, Man, Radio de la Paix.
Dernière articulation de ce journal, l'invité de la rédaction, maître de conférence en géographie à l'université Jean-Lorignon Guédé de Daloa, Dr Guillaume Nguessan, se prononce sur la récente décision du directeur général du conseil Café Cacao de suspendre les ventes à terme du cacao ivoirien pour la saison 2023-2024 en raison des pluies torrentielles qui sont survenues. En quoi ces pluies ont-elles un impact sur la production et quelles sont les conséquences d'une telle décision sur l'économie ivoirienne, les éclairages dans cet entretien conduit par Jean-Claude Comé.
Docteur Guillaume Nguessan, bonjour.
Bonjour.
La Côte d'Ivoire, à travers donc la structure du Conseil Café Cacao, a décidé de suspendre ses ventes à terme du cacao en raison des pluies torrentielles. Pour commencer, la vente à terme, c'est quoi?
Alors, ce qu'il faut dire déjà de la situation, c'est que la Côte d'Ivoire a choisi de vendre par anticipation son cacao, c'est-à-dire que les clients sont connus par avance, on leur vend la production qui doit venir des années, on va dire, après. Alors donc, ce système consiste pour la structure en charge du café cacao de pouvoir profiter donc des éventuelles hausses de prix sur le marché international. Alors donc, c'est un système qui, dans l'entendement du conseil café cacao, devrait profiter donc à la Côte d'Ivoire et donc aux producteurs.
Alors donc, ce système de vente est suspendu en raison des pluies torrentielles. En quoi les pluies pourraient impacter ce système de vente-là?
Alors, la difficulté que la Côte d'Ivoire risque de rencontrer, c'est qu'avec les perturbations climatiques, la production attendue risque de ne pas être atteinte. Alors, par conséquent, il peut se trouver que les prévisions de livraison donc aux clients pourrait connaître aussi un déséquilibre. Donc, de façon logique, le conseil Café Cacao prend les dispositions pour ne pas se retrouver face à cette situation. Parce que vendre des contrats d'exploitation alors que l'avenir de la production, on va dire pour la saison prochaine, octobre, risque donc d'être perturbé. On risque de ne pas avoir les quantités souhaitées donc pour livrer aux clients à qui nous avons l'habitude de livrer le cacao. Alors, c'est une mesure de précaution, c'est une mesure de prudence que prend le Conseil Café Cacao. Quel est son impact alors donc pour la filière? On attend de voir.
Justement, les conséquences d'une telle décision, surtout pour les producteurs, seront lesquelles?
Alors, logiquement, ce qu'il faut noter dans un premier temps, selon ce qui est décrit par le Conseil Café Cacao, les perturbations climatiques risquent d'impacter la production. Et donc, s'il y a sous-production de la Côte d'Ivoire qui offre, on va rappeler, 40% du marché mondial, ça veut dire qu'il y aura une pénurie du produit sur le marché international. Et en pareille situation, la logique voudrait que les prix grimpent. Voilà. Donc si les prix grimpent, cela devrait profiter logiquement au pays d'abord et aux producteurs après.
Donc une conjoncture favorable par rapport à ces prix-là, éventuellement, comme vous avez dit.
Éventuellement, cette situation devrait profiter puisque nous aurons moins de cacao sur le marché. Et la demande sera forte et donc logiquement les prix devraient grimper et les prix achetés aux producteurs aussi.
Alors, même quand on sait qu'ici, le système ivoirien permet une fixation d'un prix, est-ce à dire que, bon, le paysan pourrait bénéficier de ce prix-là, quand on sait que c'est le gouvernement qui fixe les prix?
Alors, logiquement, ça devrait profiter aux acteurs. Mm-hmm. Mais quand on sait que, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, le cacao représente, on va dire, son économie, les recettes du cacao permettent à l'État de faire beaucoup de choses, et donc les prévisions de l'État en matière donc de budget, en matière donc de financement de l'économie, proviennent aussi des ressources tirées du cacao. Qu'est-ce que l'État a prévu financer? Qu'est-ce que l'État a prévu dépenser? Est-ce que l'argent rapporté par le cacao pourra permettre à l'État de faire ses dépenses et qu'il y ait un surplus qu'on peut répertorier sur le revenu du paysan? Tout ça reste des hypothèses à voir. Parce que si effectivement les coûts grimpent, puisque nous sommes dans cette dynamique depuis un certain temps, si les prix grimpent, l'État aussi relève un peu à la hausse ses ambitions de développement. Alors, est-ce à dire qu'on va prendre toute la manne générée par le cacao pour le déverser seulement chez les producteurs? Je ne crois pas que c'est ce que l'État va faire. Il y a aussi des chapitres de dépenses de l'État et qui font que l'État ne peut pas déverser tous les bénéfices du cacao chez les producteurs.
Quand on sait que le pays aussi est deux fois un système de péréquation, hein, lorsque ça va, on essaie de mettre de côté et puis bon, quand ça ne va pas, on essaie de compenser. Alors, vous parliez du contexte mondial qui note une certaine augmentation du prix à l'international. Ce facteur est dû à quoi, docteur?
Vous savez, le marché du cacao est soumis à plusieurs facteurs. Alors, il y a des facteurs naturels, notamment les perturbations climatiques qui risquent de perturber la production et donc réduire les quantités que la Côte d'Ivoire va offrir au marché international. C'est un facteur susceptible de faire grimper les prix. Il y a aussi l'intervention de la Chine en tant que acheteur du cacao. Donc la demande au niveau mondial commence à gonfler du fait que la Chine devient aussi un client important dans l'achat du cacao. Voilà, on a dit deux facteurs déjà qui sont en faveur donc de cette situation favorable pour la hausse des prix du cacao.
Docteur Guillaume Nguessan, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Dr Guillaume Nguessan, maître de conférence en géographie à l'université Jean-Lourignon Guédé de Daloa. Invité de la rédaction, il répondait aux questions de Jean-Claude Comé. Et c'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. Mon candidat, c'est la paix. C'est la campagne de sensibilisation lancée hier dans le Béquet par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadjo Konan-Bertin, pour contribuer à des municipales et régionales apaisées sans violence, et ce pratiquement à 2 semaines de ces élections. Au Burkina Faso voisin, un ex-ministre a été condamné à 7 ans de prison ferme pour détournement de deniers publics. Et ce vendredi, la revue de presse est l'affaire de Didier Blé.
Bonjour à tous. Élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. La liste électorale définitive est désormais disponible. Elle compte 8 millions de...